السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Deux jours auparavant, nous étions le 23 mars. Le 23 mars, qui est un jour important au sein de la Jamaat Ahmadiyya. La promesse faite par Allah au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'est accomplie ce jour-là. Et la prophétie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'est réalisée. Et la période de la renaissance de l'islam a débuté. Allah a donné la permission à Mirza Ghulam Ahmad de Qadian de se proclamer le Messie promis et le Mahdi promis ce jour-là. Mirza Ghulam Ahmad de Qadian devait présenter au monde des preuves et des arguments attestant de l'unicité de Dieu. Il devait aussi prouver la supériorité de l'islam sur toutes les religions. Et il devait aussi prouver que l'islam est la religion parfaite. Et il devait remplir les cœurs des hommes de l'amour pour le dernier prophète, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes parmi ces personnes chanceuses qui font partie de la Jamaat du Messie promis. Et deux jours auparavant, compte tenu de l'importance de ce jour, la Jamaat a organisé la journée du Messie promis. Et dans ces rencontres, l'on évoque le but de l'avènement du Messie promis, alayhi salam. Et on évoque aussi l'établissement de sa Jamaat. Et les membres de la Jamaat ont aussi prouver leur reconnaissance envers Dieu, à savoir qu'Allah nous a permis d'accepter l'injonction du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et d'accepter le Messie promis l'Islam et le Mahdi promis et de lui transmettre les salutations du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Accepter le Messie promis l'Islam est une source de joie pour nous. Nous devons aussi prouver notre reconnaissance envers Allah pour ce faire, mais cela accroît aussi nos responsabilités. Nous devons reconnaître nos responsabilités et les assumer. Quelles sont ces responsabilités? Cette responsabilité, c'est de perpétuer les œuvres pour lesquelles le Messie promis l'Islam a été envoyé. Et c'est là que nous pourrons être de ceux qui, ayant accepté le Messie promis l'Islam, nous avons bâti une nouvelle terre et un nouveau ciel. Ainsi, afin de comprendre ces responsabilités, nous allons devoir nous tourner vers le Messie promis l'Islam, à savoir quels étaient les objectifs de son avènement et jusqu'à quel point avons-nous compris ces objectifs et jusqu'à quel point les avons-nous atteints et quel rôle avons-nous joué pour faire avancer ces objectifs ou quel rôle sommes-nous en train de jouer pour faire avancer ces objectifs. Le Messie promis l'Islam déclare dans son endroit: Dieu m'a envoyé pour accomplir les tâches suivantes. De rétablir cette relation qui s'est dégradée entre Dieu et sa création. Et de rétablir de nouveau une relation d'amour et de sincérité entre la création de Dieu et Dieu. Deuxièmement, je suis venu mettre fin aux guerres religieuses en dévoilant la vérité et de jeter les bases de la réconciliation. Ensuite, j'ai été envoyé, dit-il, afin de dévoiler de nouveau au monde ces vérités religieuses qui ont été cachées des regards des hommes. Quatrièmement, j'ai été envoyé afin de dévoiler cette spiritualité qui a été enfouie sous les décombres de l'égoïsme. Un autre objectif, c'est de démontrer par des actions et pas uniquement par des paroles la puissance divine qui se manifeste en l'homme par l'entremise de son attention et de ses supplications. Le plus grand objectif, dit le Messie promis l'Islam, c'est de planter pour toujours dans la nation la plante de l'unicité sublime et brillante de Dieu, une unicité qui est exempte de toute souillure du polythéisme. Je ne suis pas à même d'accomplir ces œuvres, dit le Messie promis l'Islam. Elles le seront accomplies par l'entremise du pouvoir du Dieu des cieux et de la terre. Ainsi, dans ses écrits, le Messie promis l'Islam a évoqué sept points fondamentaux et importants qui sont essentiels à notre époque. Il a mentionné ainsi, en bref, ses objectifs. Étant donné qu'il affirme qu'Allah lui a envoyé pour accomplir cette œuvre, il est évident que ses disciples doivent adopter ces principes et vont devoir montrer au monde la beauté de l'islam et de démontrer que l'islam est une religion vivante. Ainsi, notre premier devoir est de grandir dans notre relation avec Dieu. Notre grand devoir, c'est de renforcer ce lien que nous avons avec Dieu. Nous allons devoir grandir dans cette relation avec Dieu, dans cette relation avec son prophète et sa religion, dans notre amour et notre fidélité à leur égard. Nous allons devoir informer le monde qu'avec l'avènement du Messie promis l'Islam, les guerres religieuses ont pris fin. Voilà un des objectifs du Messie premier Islam. Et Dieu a envoyé le Messie premier Islam, le serviteur fidèle du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en portant le manteau de tous les prophètes afin d'unir l'humanité. En accord à sa mission, nous allons devoir étaler devant le monde les beaux enseignements de l'islam ainsi que la véridicité de l'islam. Et pour ce faire, nos actions devront servir d'exemple. Nous allons devoir servir de modèle dans le domaine du progrès spirituel. Et nous allons devoir nous débarrasser de nos passions charnelles. Nous allons devoir montrer au monde que Dieu exauce les prières aujourd'hui encore et qu'il répond à ses serviteurs choisis et à ses envoyés, tout comme ce fut le cas dans le passé, et qu'il console les cœurs de ses serviteurs choisis. Nous allons devoir informer le monde que Dieu est unique. Toute chose est vouée à disparaître. Seule sa personne existera pour toujours. Seule sa personne est éternelle. Ainsi donc, notre salut réside dans notre lien avec ce Dieu unique et éternel. Quand nous célébrons la journée du Messie promis, le 23 mars, nous allons devoir analyser ces faits. Nous allons devoir analyser ces faits que le Messie promis était venu engendrer en nous. Nous qui sommes ses disciples, sommes-nous en train de respecter ses injonctions? Sommes-nous en train de faire des efforts pour apporter en nous cette révolution? En de nombreux endroits, le Messie promis l'Islam a évoqué le but de son avènement. Je vous présente certains extraits des dires du Messie promis l'Islam. Il affirme à une occasion, « Le but de ma mission est de transmettre le message suivant à l'humanité, à savoir la vraie religion, celle-là même qui plaît à Dieu, et celle qui est présentée par le Saint-Coran, et la porte du salut, et la parole, « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ». Le Messie promis l'Islam déclare dans un autre endroit, « Écoutez ces paroles avec votre cœur. Quel est le but principal de mon avènement ? Le but principal de mon avènement est uniquement la renaissance de l'islam et le soutien en faveur de l'islam. Ne croyez pas que je suis venu apporter une nouvelle charia ou pour présenter de nouveaux commandements ou qu'un nouveau livre a été révélé. Certainement pas. Si une personne entretient pareille opinion, eh bien, elle s'est égarée très loin, selon moi. Elle n'a point de foi. La charia et la naboua sont arrivées à leur apogée par l'entremise du saint prophète, paix soit sur lui. Il ne peut y avoir à présent d'avoir de nouvelles charia. Le Saint-Coran est le sceau des livres célestes et le dernier des livres célestes. On ne peut y ajouter ou retirer un seul point. Or, il n'est point de doute que les bénédictions et les faveurs du saint prophète ainsi que les fruits des préceptes de la direction du Saint-Coran n'ont point tari. À toute époque, ils sont vivaces. Dieu m'a envoyé afin de prouver l'existence de ses faveurs et de ses bénédictions. L'état de l'islam est évident, dit le Messie promis l'Islam. Les musulmans sont victimes de toute forme de faiblesse et de toute décadence. Leurs propos n'accompagnent pas leur cœur. L'islam est devenu orphelin. Dieu m'a envoyé dans cette situation afin que j'aide l'islam et afin que je sois à sa tête. Il m'a envoyé conformément à ses promesses. Car il affirme « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun ». à savoir, nous avons révélé ce rappel et nous en serons les protecteurs. C'est-à-dire, Dieu a pris la responsabilité de diffuser les enseignements du Saint-Coran et de le protéger. C'est pour cet objectif qu'il envoyait le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam déclare, s'il n'accordait pas son soutien et sa protection à présent, eh bien, quand le fera-t-il? L'état de l'islam au cours de ce 14e siècle est similaire à son état à Badr, à propos duquel Allah déclare « وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ » C'est-à-dire, en vérité, Allah vous a déjà secouru à Badr lorsque vous étiez faible. Ce verset se basé sur une prophétie, dit le Messie premier l'Islam. Lorsque, au cours du 14e siècle, l'Islam sera dans un état de faiblesse, Allah accordera son soutien d'accord à cette promesse de protection. Pourquoi donc vous étonnez-vous qu'il accordait son soutien à l'Islam? Je ne m'attriste point du fait que l'on m'a traité d'antéchrist ou de fiefé menteur qu'on m'a accusé à tort et à travers, car on devait me traiter de la même manière qu'on avait traité les prophètes du passé. Je devais, moi aussi, faire partie de cette ancienne sunna. En évoquant le but de l'avènement du Messie promis, il déclare dans un autre endroit, « Mon avènement comprend deux buts, de faire en sorte que les musulmans marchent sur la voie de la taqwa véritable et de la pureté, qu'ils soient de vrais musulmans selon la définition que fait Dieu de ce terme. Je suis aussi venu briser la croix pour les chrétiens, afin qu'ils ne voient plus leur faux Dieu, et pour que le monde l'oublie complètement, et afin qu'ils adorent le Dieu unique. Pourquoi ces gens se sont-ils soulevés contre moi en ayant pris connaissance de ces objectifs? Qu'ils sachent que toute œuvre qui s'accompagne d'hypocrisie et d'une vie faite de la souillure de ce monde, eh bien, cette œuvre est détruite par ce poison. L'imposteur remporte-t-il jamais du succès? Inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. En vérité, Allah ne guide pas celui qui est un transgresseur et un grand menteur. Le mensonge du menteur suffit pour causer sa destruction. Or, l'œuvre accomplie pour la gloire de Dieu et pour manifester et prouver les bénédictions de son prophète, eh bien, la plante mise en terre par la main de Dieu, quant à eux, sont protégées par Dieu. Qui pourra les détruire? Sachez que si ma communauté n'était qu'un vain commerce, elle aurait disparu depuis fort longtemps. Or, si elle est de la part de Dieu, et certainement elle vient de la part de Dieu, eh bien, elle progressera même si le monde entier s'oppose à elle, elle sera protégée par des anges. Inch'Allah. Même si tout le monde m'abandonne, dit le Messie premier l'Islam, et que personne ne m'accorde son soutien, je suis convaincu que cette communauté aura du succès. Je ne me soucie guère de l'opposition, voire je la considère une partie essentielle du progrès de ma communauté. Jamais aucun envoyé ou aucun calife de Dieu n'est apparu en ce monde et qu'il a été accepté de bonne grâce. L'état du monde est fort étrange. Une personne peut être de nature véridique, mais les autres ne cessent de le critiquer. Ils ne cessent de le critiquer à tort et à travers. Aujourd'hui, 127 ans après, nous constatons que le soutien de Dieu accompagne toujours le Messie premier l'Islam. Par la grâce de Dieu, cette communauté ne cesse de progresser. Ainsi, il nous incombe d'apporter des changements purs en notre personne et de soutenir le Messie premier l'Islam afin qu'il atteigne son objectif et de profiter de cette faveur qui concernait le but de son avènement. Sinon, tout comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam, il n'a certainement pas besoin de nous. Allah pourra lui accorder son soutien à travers des anges et pourra faire progresser sa communauté. En évoquant ailleurs le but de son avènement, le Messie premier l'Islam déclare Allah m'a envoyé afin que je puisse dévoiler au monde ces trésors enfouis et de nettoyer ces joyaux brillants de la souillure de ces viles objections. Le sens de l'honneur de Dieu est en plein émoi. Allah désire débarrasser l'honneur du Saint-Coran des objections des vils ennemis. L'ennemi lance ses assauts contre nous par l'entremise de la plume. Ce sera de la pure sottise que de tenter de le combattre à coups de bâton en pareille occasion. Je vous l'annonce haut et fort. Si en pareille situation, quelqu'un tente de répondre à l'ennemi en ayant recours aux armes, eh bien, il ternira l'image de l'islam. L'islam ne préconise pas le recours aux armes sans aucune raison. Tout comme je l'ai déclaré, les objectifs des guerres à présent ne sont plus religieuses mais mondaines. Ce sera là un très grand crime que de prendre les armes contre celui qui soulève les objections contre l'islam. Avec le passage du temps, la guerre a changé de forme. Il est essentiel à présent d'user de son cœur et de ses facultés mentales et de se purifier l'âme. Il est essentiel tout d'abord d'user de son cœur, de ses facultés mentales et de se purifier l'âme et d'implorer le soutien de Dieu et le triomphe de sa part en ayant recours à la droiture et la taqwa. C'est là une loi immuable de Dieu, c'est un principe établi de Dieu. Les musulmans ne remporteront point de victoire et de succès rien qu'en ayant recours à de vaines paroles dans leur lutte. Allah n'a que faire des fanfaronnades et des vaines paroles. Il désire la taqwa véritable et il souhaite voir la vraie pureté, tout comme il l'affirme « Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun ». Ainsi, nous devons faire naître en nous la taqwa. Afin d'informer le monde des beaux enseignements de l'islam, nous devons informer les musulmans que la diffusion de l'islam est liée à la taqwa. Ainsi, au lieu de commettre davantage d'atrocités, qu'ils fassent naître en leur personne la taqwa. Ces attaques lancées au nom de l'islam ne sont pas des soutiens en faveur de l'islam. Au contraire, elles ternissent l'image de l'islam. Tuer les innocents est un moyen d'attirer la colère divine. Quelques jours de cela, on a tué des innocents dans une attaque terroriste en Belgique. Des douzaines d'innocents ont perdu la vie et des centaines d'autres ont été blessés. Jamais pareil acte n'attireront le plaisir de Dieu. À pareille époque, quand le Messie promet l'islam, nous a expliqué clairement que se battre au nom de la religion est interdit. Pareilles actions sont en train d'attirer la colère divine. Et personne ne peut affirmer qu'il n'a pas reçu ce message. Tout le monde connaît ce message clair du Messie promet l'islam, à savoir que se battre au nom de la religion est à présent interdit. Qu'Allah accorde le discernement nécessaire à ceux qui commettent ces atrocités au nom de la religion ou à ces musulmans qui commettent ces atrocités, qu'il s'agisse d'États musulmans ou de groupes musulmans, afin qu'ils écoutent la voix de l'imam de l'époque, afin qu'ils cessent ces exactions et afin qu'ils aient recours à l'arme véritable que Dieu a accordé à l'imam de l'époque. Le Messie promet l'Islam déclare dans un endroit « Aujourd'hui, nous n'avons point besoin de l'épée, mais de la plume. Nos détracteurs ont semé des doutes à propos de l'Islam. Ils ont voulu s'attaquer à la vraie religion d'Allah en ayant recours à des sciences et à des subterfuges. Allah m'a enjoint de prendre l'arme de la plume et de descendre dans ce champ du progrès scientifique et intellectuel et de montrer le miracle de la bravoure spirituelle et la force intérieure de l'islam. Comment aurais-je pu être à même de mener cette lutte? Ce n'est que par la grâce de Dieu et ce n'est que par le truchement de ses faveurs infinies qu'il souhaite dévoiler l'honneur de sa religion par l'entremise d'un homme aussi simple que moi. Un jour, dit le Messie promène l'islam, j'ai dénombré ses objections et ses attaques de nos adversaires à l'encontre de l'islam. Selon mon estimation, il y avait environ 3000 objections. Or, le nombre a augmenté davantage aujourd'hui, dit le Messie promène l'islam. Que personne ne croit qu'on peut soulever 3000 objections contre l'islam. Certainement non. Aux yeux des sots et des obtus, ce sont peut-être des objections. Or, en dénombrant ces objections, j'ai aussi réfléchi à leur sujet. Et sous ces objections se trouvent nombre de précieuses vérités que les détracteurs ne voient pas en raison de leur manque de discernement. En somme, la sagesse divine veut que là où le détracteur aveugle est en butte à des objections, il s'y trouve des trésors cachés de vérité. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique que Dieu lui a envoyé pour montrer la lumière de l'Islam et que les chrétiens ne comprennent même pas leurs croyances et leurs doctrines. Il déclare que ces gens sont contraints de suivre la doctrine qu'ils ne comprennent même pas. Que dire des croyances de ces gens, dit le Messie promène l'Islam. C'est l'Islam qui a apporté la vérité. Dieu m'a envoyé afin que je dévoile la vérité sur la lumière qui se trouve en Islam. La vérité est que Dieu existe. La vérité est qu'il est unique. Je crois, quant à moi, que même si les évangiles, le Coran et les autres écritures célestes n'étaient pas révélées, eh bien, l'unicité de Dieu sera prouvée car ces marques sont présentes dans la nature humaine. Affirmer que Dieu possède un fils signifie être convaincu de la mort de Dieu, car le fils est là pour servir de rappel. Si Jésus est le fils de Dieu, est-ce que cela signifie que Dieu va un jour mourir? En bref, dans leur croyance, les chrétiens n'ont accordé aucune grandeur à Dieu, ni aucune valeur aux aptitudes de l'homme. Ils acceptent des croyances qui ne jouissent pas du soutien de la lumière céleste. Y a-t-il un seul chrétien qui pourra montrer des miracles? Y a-t-il un seul chrétien qui pourra montrer, grâce à sa foi, les signes des croyants? Seul l'islam détient cette excellence et cet honneur, à savoir qu'il est accompagné des signes du soutien divin à toute époque. Dieu n'en a pas privé l'époque actuelle. J'ai été envoyé afin de montrer ces signes de soutien qui sont l'apanage de l'islam. Béni soit celui qui vient prendre la vérité de moi avec le cœur sincère. Béni soit celui qui accepte la vérité en la voyant. En réfutant les croyances erronées des musulmans, la croyance à savoir que Jésus-Christ est vivant au ciel, en leur dévoilant la vérité à ce sujet, le Messie promène l'Islam déclare « Dieu m'a envoyé afin que je déracine cette croyance erronée. » Croyance erronée que les chrétiens ont fait naître chez les musulmans. Il déclare « Le Saint-Coran nous présente les faits réels et convaincants quant au fait que Jésus-Christ a été descendu vivant de la croix et qu'il était toujours vivant suite à cet incident. Malheureusement, en sus des autres malheurs qui ont frappé l'islam au cours de ces 1000 dernières années, cette question aussi est tombée dans l'obscurité. Malheureusement, les musulmans ont cru que Jésus-Christ a été élevé physiquement au ciel et qu'il en descendra quand le jour de la résurrection se rapproche. Or, Allah m'a envoyé au cours de ce 14e siècle afin que je dissipe ces erreurs internes qui se sont glissées chez les musulmans et que je dévoile la vérité de l'islam au monde. Et afin que je réponde aux critiques lancées de l'extérieur contre l'islam, et afin que je mette à jour la réalité des fausses religions, en particulier celle de la religion chrétienne. afin que je débarrasse le monde de cette croyance hautement dangereuse pour l'homme. Une croyance dont les dangers entravent l'épanouissement et le progrès des aptitudes spirituelles de l'homme. À une occasion, le Messie premier Islam a déclaré à propos de Jésus, à savoir quelle est la nécessité de l'avènement de Jésus à notre époque. Mis à part les autres raisons, son avènement est aussi nécessaire en raison de la ressemblance entre la nation de Moïse et celle du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. En raison de la ressemblance entre la nation de Moïse et celle du saint prophète, eh bien, l'avènement de ce Messie est nécessaire. Jésus-Christ est apparu 14 siècles après Moïse. Le Messie premier Islam déclare, « Moi, je vous présente un précédent du second avènement de Jésus. Or, ceux qui affirment que Jésus devra venir en personne doivent aussi présenter un précédent. S'ils ne peuvent le faire, et certainement ils ne pourront le faire, pourquoi donc ces inventions ? Pourquoi ces inventions, dit le Messie premier Islam, éviter ces affabulations, car elles mènent vers la voie de la destruction. La colère divine a frappé les Juifs parce qu'ils ont rejeté un prophète de Dieu. Et en raison de ce rejet, ils ont pris un métaphore au pied de la lettre. Ainsi donc, ils ont pris ce métaphore au sens littéral. En résultat, ils se sont attirés la colère de Dieu. Or, nous voyons une situation similaire. Le Messie premier Islam déclare, « Je suis fort triste de la situation des musulmans. Ils ont devant eux le précédent des Juifs. Et dans leurs cinq prières quotidiennes, ils récitent la prière « Ghayril Maghdoubi Alayhim ». Et ils acceptent que cette locution s'applique aux Juifs. Or, je ne comprends pas pourquoi ils suivent la même voie. Un prophète a rendu un verdict dans un cas similaire. Pourquoi Jésus descendra-t-il physiquement du ciel pour casser cette décision? Jésus en personne a rendu son verdict dans le cas d'Élie et il a expliqué que son deuxième avènement sera au sens spirituel et que Yahya est venu en la personne d'Élie. Or, face à ce précédent, les musulmans ne sont pas satisfaits tant que Jésus ne descend pas physiquement du ciel. Je vous demande de prier, vous et vos soutiens, que Jésus descende physiquement du ciel, et vous constaterez qu'il n'en descendra pas. Je dis en toute vérité que si toutes ces personnes ne cessent de se prosterner pendant toute leur vie, et qu'ils usent leur nez au sol, eh bien Jésus-Christ ne descendra pas du ciel, car celui qui devait venir est venu. Si seulement les musulmans puissent comprendre ce point, et qu'au lieu de s'opposer à l'envoi de Dieu, qu'ils s'attachent à lui, afin de pratiquer les véritables enseignements de l'islam dans le monde, et qu'ils essayent d'agir avec justice partout, et qu'ils essayent d'établir la paix et la justice partout. Il faut que nous présentions l'image véritable de l'islam aux non-musulmans et à ceux qui n'ont aucune religion. Et nous devons, en tant que musulmans, servir l'islam. Voilà comment doivent agir les musulmans. En évoquant quatre signes de sa véridicité, le Messie premier islam déclare « Le premier est celui de la maîtrise de la langue arabe. » Et cette maîtrise m'a été accordée depuis que Mohammad Hussein Batalvi a écrit que je ne connais pas la conjugaison d'une seule forme verbale de langue arabe, alors que je n'avais jamais déclaré que je connais la conjugaison. Les gens qui ont étudié l'arabe, sa grammaire, savent comment c'est difficile. Maulvi Abdul Karim Saheb a observé comment, depuis le début, Dieu m'a accordé son aide à travers ces miracles. La plus grande difficulté était lorsqu'on ne trouvait pas des expressions idiomatiques, mais Dieu m'inspirait ces mots. Il est facile d'inventer des expressions toutes nouvelles et affectées. mais il est difficile de trouver des expressions idiomatiques. Ensuite, j'ai publié ces ouvrages et j'ai présenté de grandes récompenses. Et je leur ai dit de prendre l'aide de n'importe qui, même des lettrés. Dieu m'a accordé cette certitude qu'ils n'auront pas la possibilité de se faire, car ceci fait partie des miracles du Saint-Coran. C'est un miracle qui m'a été accordé par l'entremise du Saint-Coran. Le deuxième signe est l'acceptation des prières. J'ai observé, lorsque j'écrivais mes livres en langue arabe, que Dieu a accepté mes nombreuses prières. J'ai prié en écrivant chaque mot, et à l'exception du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, le statut duquel est très élevé, et c'est en le suivant que j'ai obtenu ce statut, eh bien, en sus des prières du saint prophète paix soit sur lui, ce sont mes prières qui ont été les plus exaucées. À l'exception du saint prophète paix soit sur lui, les prières d'un autre prophète n'ont pas été exaucées à l'instar des prières du Messie promis. Je ne peux pas les énumérer. Et il y avait certains signes de l'acceptation de mes prières qu'un grand nombre de personnes en étaient au courant. Le troisième type de signe, dit le Messie promis, l'Islam, ce sont les prophéties, c'est-à-dire la connaissance de l'invisible. C'est vrai que les astrologues et les devins, selon leur intuition, disent des choses qui s'accomplissent par la suite. Ainsi donc, l'histoire nous apprend qu'à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, il y avait des devins qui faisaient des prédictions. Ainsi, Sati était aussi un devin. Cependant, il y a une différence entre la connaissance de l'invisible de ces devins, de ces astrologues, et la connaissance de l'invisible des prophètes. Ceux qui ont reçu la révélation divine sont accompagnés de la puissance divine dans leur connaissance de l'invisible. C'est pourquoi le Saint-Coran déclare « La yuthiru ala ghaibihi illa man irtaba min ar-rasul ». Le terme « idhar », prédominance, signifie la splendeur et la force. Le quatrième signe, la connaissance du Saint-Coran, car la connaissance du Saint-Coran ne peut être accordée qu'à celui qui a été purifié. Il est dit « La yamassuhu ilal mutahharun ». J'ai demandé à maintes reprises à mes adversaires d'écrire des commentaires du Saint-Coran. Je vais aussi composer des commentaires et nous allons comparer ces commentaires. Mais personne n'a eu le courage de relever ce défi. Mohammed Hussein et les autres ont déclaré que je ne connais même pas la conjugaison d'une seule forme verbale en langue arabe. Mais lorsque j'ai présenté mes ouvrages, ils ont présenté de vaines et ridicules excuses. Et ils n'ont même pas pu écrire une seule page afin de dire « Voilà, c'est cela la langue arabe ». Voilà les quatre signes de ma véracité qui m'ont été accordés. Le 17 août 1899, Hazrat Molvik Abdul Karim Seb a écrit « Quelques jours de cela, une personne des Bareilly a envoyé une lettre au Messie promis l'Islam et lui a demandé s'il était bien le Messie promis qui a été prédit dans les hadiths du Saint-Prophète. Il a dit « Veuillez écrire la réponse en jurant au nom de Dieu ». Molvik Abdul Karim a déclaré « J'ai répondu à cette lettre comme je l'ai fait, comme d'habitude. J'ai pris deux phrases de l'ouvrage Tiraqul Qulub pour lui répondre. Mais cette personne n'était pas satisfaite. Cette personne s'est adressée à moi et a déclaré que je désire que Mirza Saheb écrive de sa plume en jurant qu'il est bien le Messie promis qui a été mentionné dans les hadiths. Après la prière du soir, j'ai présenté une feuille et une plume au Messie promis l'Islam. Et je lui ai dit, voilà ce qu'a écrit cette personne. Le Messie promis l'Islam a aussitôt commencé à écrire ces quelques lignes. Le Messie promis l'Islam a écrit, j'ai déjà écrit la déclaration ci-dessus en jurant dans plusieurs de mes ouvrages. Et maintenant, je jure devant l'être qui détient ma vie entre ses mains, que je suis ce même Messie promis qui avait été prédit par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, dans les hadiths authentiques du recueil Bukhari, Muslim, et dans les autres livres authentique des hadiths. Wakafa billahi shahida. Allah suffit comme témoin. Et le Messie Premier Islam a signé Mirza Ghulam Ahmad. Afa Allahu anhu wa ayyadahu. Le 17 août 1899. Maulvi Saheb relate. J'ai mentionné cet incident pour deux raisons. La première, pour que la foi des membres de la Jamaat augmente, afin que les membres de cette Jamaat ressentent le même plaisir que ceux qui sont ici ressentent lors de cet incident, afin qu'ils affirment tous qu'ils ont obtenu une nouvelle foi. Et la deuxième raison, c'est afin que les opposants et ceux qui ont des doutes réfléchissent à ce sujet et afin qu'ils se demandent est-ce possible qu'un menteur soit doué d'une telle éloquence et qu'il puisse avoir le courage de jurer ainsi au nom de Dieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dans un autre endroit, en prodiguant des conseils aux membres de la Jamaat, le Messie Premier Islam a déclaré « Je ne désire pas qu'au moment du serment d'allégeance, l'on se contente de répéter quelques paroles, à l'instar d'un perroquet. Cela n'est d'aucun avantage. Purifiez votre âme, ceci est primordial. » Comprenez ce qu'est la purification de l'âme et purifiez-vous l'âme. Mon objectif n'est pas de débattre sur le sujet de la mort de la vie de Jésus. Ceci est une question mineure. Il ne faut pas se contenter de cela. C'était une erreur que j'ai rectifiée. Ma tâche et mon objectif est de vous pousser à effectuer une évolution positive en votre personne. Vous devez vous changer entièrement. Il vous incombe à tous de comprendre ce secret, d'apporter en vous cette transformation radicale afin que vous puissiez annoncer que vous êtes différent. Certainement, tant que vous ne partagez pas pour une longue période ma compagnie, vous ne pourrez annoncer que vous avez été transformé. Le Messie Premier Islam a déclaré que si vous avez purifié votre âme et votre caractère, c'est là que vous pourrez annoncer qu'il y a eu un grand changement en vous. Sinon, pareille déclaration sera vaine. Le Messie Premier Islam a déclaré que si vous êtes de vrais croyants, remerciez Dieu et prosternez-vous en guise de remerciement, car vous avez connu l'époque qui a été attendue par vos ancêtres, des personnes qui vous ont trépassé. Vous avez connu cette époque. Il vous incombe à vous maintenant de valoriser cette période ou de ne pas le faire, d'en profiter ou pas. Je le répéterai encore et encore et je ne pourrai m'arrêter d'annoncer que je suis celui qui a été envoyé pour la réforme de l'humanité afin de rétablir de nouveau la foi dans les cœurs. J'ai été envoyé à l'instar de cette personne qui a été envoyée après Moïse, dont l'âme a été élevée au ciel après beaucoup de peines au cours de l'état d'Hérode. Lorsque le deuxième Kalimullah, qui est en vérité le premier et le chef des prophètes, est venu pour déshonorer les autres prophètes, tout comme il a été dit dans ce verset, « Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'aun rasula » Eh bien, il était à l'image de Moïse, le Kalimullah, mais il avait un rang beaucoup plus supérieur à Moïse et il a annoncé qu'il y aura un représentant du Messie, Jésus, qui viendra. Et ce représentant de Jésus sera identique à Jésus, fils de Marie. Et il viendra au cours d'un laps de temps similaire, c'est-à-dire au cours du 14e siècle. Il devra descendre spirituellement du ciel, à l'instar de ces personnes qui descendent pour la réforme de la création de Dieu. Et il est venu à cette période, une période qui avait les mêmes caractéristiques de l'époque de Jésus. Ainsi, il est ainsi pour ceux qui veulent comprendre. On ne doit pas donc rejeter ceci, afin que l'on ne s'oppose pas à Dieu. Les gens de ce monde ont des opinions bornées et sont dans l'obscurité, et ne vont pas accepter cela. Mais bientôt, le temps viendra où ils vont comprendre leurs erreurs. Un avertisseur est apparu au monde, mais le monde ne l'a pas accepté, mais Dieu l'acceptera et prouvera sa véridicité par des assauts terribles. Ainsi, nous sommes chanceux d'avoir accepté le Messie promis. Et tout en lui prêtant allégeance, nous avons aussi promis d'apporter des changements purs en nous et de mettre en application les préceptes du Saint-Coran. Et nous avons fait partie de ceux qui se prosternent en gratitude à Dieu et non pas parmi ceux qui se sont détournés du Messie. C'est là une grâce qu'Allah nous a accordée, c'est là une miséricorde qu'il nous a accordée en nous faisant naître à cette époque, l'époque de l'avènement du Messie promis, l'époque où a débuté la renaissance de l'islam. Et à l'époque des ténèbres dans lesquelles vivaient les gens de le passé et passé. Nous sommes en train de vivre l'époque de la renaissance de l'islam. Nous sommes nés au cours de cette période de la renaissance de l'islam. Et nombre d'esprits purs attendaient cette période et ont quitté ce monde sans connaître cette époque. Le Messie premier l'islam nous a fait connaître le Dieu vivant, un Dieu qui entend et qui parle aujourd'hui tout comme il le faisait auparavant. Ainsi, nous devrons prouver notre reconnaissance envers Dieu. Il y a un point que je voudrais présenter concernant le 23 mars. Dans le cadre de la journée du 23 mars, d'aucuns se sont félicités par des messages. Il y a plusieurs formes de messagerie, à l'instar de WhatsApp et les autres. S'ils se sont présentés ces vœux parce que nous avons accepté le Messie premier l'Islam et que nous sommes en train de prouver notre reconnaissance pour le fait que nous sommes parmi ces musulmans qui sont sur la voie droite parce que nous l'avons accepté et que nous sommes en train de propager la religion et ses vertus, si c'était avec ces intentions que nous nous sommes félicités, eh bien, ces vœux était légitime. Il n'y a pas de mal à cela et il n'y a aucune innovation en cela. Mais je suis, moi, étonné de la réaction d'une personne qui a envoyé son message. Il a écrit un très long message et il a interdit les autres avec véhémence. Il a déclaré que vous êtes en train de créer des innovations à l'instar des autres musulmans. Je m'étonne de cette personne qui, selon moi, connaît très bien la religion, qui connaît très bien l'Nizam et Jamaat. Comment peut-il annoncer que ceux qui se présentent de tels vœux vont sombrer dans l'innovation? Les autres musulmans n'ont pas reçu cette faveur qu'est le califat, faveur qu'ils ont reçue parce qu'ils ont accepté le Messie premier l'Islam. Si le calife verra qu'il y a une innovation ou qu'il y a une pratique condamnable, eh bien, si ce califat est authentique et véridique, eh bien, il arrêtera pareille action condamnable, Inch'Allah. Ensuite, il ne faut pas avoir des doutes concernant l'intention des gens. Innamal a'malu binniyat, comme le dit Surdith. Il se peut qu'une personne ait fait cette annonce avec de bonnes intentions. Cette personne doit aussi se placer derrière le bouclier du califat quand il fait des annonces. Il ne doit pas tenter de dépasser le califat. Celui qui tentera de le faire va s'égarer, qu'il le sache. Préservez l'unité. N'essayez pas d'imposer votre opinion sur les autres, sur les membres de la Jamaat. Je cite un exemple dans le cas de pareille personne. Ce n'est pas quelque chose de très grave, mais il y a quand même certaines innovations qui existent chez les musulmans. Et quel était le point de vue du Messie premier l'Islam à cet égard? Une fois, on demanda au Messie premier l'Islam à propos de la Qada'i Imri, c'est-à-dire des prières qui ont été manquées, et les gens ont l'habitude de rattraper leurs prières en accomplissant la Jumatul Wida, ou la dernière prière du vendredi du mois du Ramadan, et de croire ainsi que leurs prières ont été pardonnées, les prières qu'ils ont manquées. On a posé une question à ce sujet au Messie premier l'Islam. Le Messie premier Islam a déclaré, certes, pareille action est tout à fait futile, il n'y a pas de doute à ce sujet. Cependant, il y avait une personne qui ne priait pas à l'heure prescrite à l'époque du calife Ali, et quelqu'un a dit à Sayyidina Ali, pourquoi n'empêchez pas cette personne de prier à cette heure inopportune? Ali a déclaré, j'ai peur de tomber sous le coup de ce verset qui déclare Ara'ayt alladhi yanha 'abdan idha salla. Ce verset qui dit « N'as-tu pas vu celui qui empêche quelqu'un de prier ?» Le Messie premier Islam déclare que si une personne délaisse une prière intentionnellement afin d'accomplir la prière « Qadha Umri », eh bien cela n'est pas permis. Mais s'il prie parce qu'il ressent des remords et pour qu'il soit pardonné, eh bien pourquoi l'arrêter ? Il est en train de prier de toute manière. Certes, quant à lui, il n'a pas de volonté. Attention que si vous empêchez cette personne de prier, vous tombiez sous le coup de ce verset. Ainsi donc, celui qui avait le droit d'émettre un fatwa, un décret, avait pris tant de précautions. Mais cette personne, quant à elle, en voyant ses vœux que les gens se transmettaient, a lancé des avertissements et des fatwas. S'il avait des appréhensions, il devrait m'en informer. Et si je devais empêcher pareille pratique, eh bien, c'est la responsabilité du calife ou de la Nizam et Jamaat. Qu'Allah fasse que nous puissions tous comprendre le but de l'avènement du Messie premier l'Islam et que nous puissions agir en ce sens. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire de deux personnes dont les dépouilles sont présentes. Il y aura la prière funéraire de Mokarma Mahmouda Sadi Saiba, qui était l'épouse de Muslimuddin Saadi Saheb. Elle est décédée le 22 mars dernier à l'âge de 94 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Muslimuddin Saadi Saheb était le frère de Mokarma Abdurrahim Dard Saheb, qui fut l'imam de la mosquée de Londres et qui avait accompli de grandes œuvres ici. Saadi Saheb est décédé en 1965 et la défunte a vécu pendant 41 ans dans un état de veuvage et elle a fait preuve d'une grande patience et d'une grande reconnaissance. Un de ses fils fut l'assistant du secrétaire privé du troisième calife. Il est décédé. Un de ses fils, Jalaluddin Akbar Saheb, est ici au Royaume-Uni. Il a servi comme l'adjoint du secrétaire Ziafat ici au Royaume-Uni. La défunte était très proche du califat. Elle aimait prêcher le message de l'Islam de l'Ahmadiyya. Elle aimait lire le Saint-Coran et enseigner le Saint-Coran. C'était une dame qui passait son temps dans la prière, qui était très patiente. Elle était très malade depuis les 6 dernières années et elle a fait preuve d'une grande patience. Au cours de sa maladie, elle était moussia par la grâce d'Allah. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que ses descendants soient toujours fidèles et sincères envers l'Ahmadiyya. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Nuruddin Chirar Saheb, qui était le fils de Chiraruddin Saheb de Gradian. Elle est décédée le 15 mars dernier à l'âge de 45 ans des suites d'une crise cardiaque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était de Qadian et il habitait ici au Royaume-Uni depuis les 10 dernières années. C'était une personne très simple. Sa sœur a écrit que il a vécu dans la pauvreté durant son enfance et lorsqu'Allah leur a accordé de grandes faveurs, eh bien, cela n'a pas attisé sa convoitise, au contraire, il a aidé nombre de personnes. On a trouvé un carnet dans lequel il avait le nom de 47 personnes qu'il aidait financièrement. Même des Lounes Ahmadi ont évoqué ses bonnes qualités et le fait que c'était une personne de nature angélique. Le défunt accomplissait ses prières quotidiennes régulièrement et il était très proche du califat. et il était respectueux à l'égard des aînés de la communauté. Ses proches se trouvent à Cardiane, qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée. Qu'Allah accorde beaucoup de patience à sa mère. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Sayyida Mubaraka Begum Sahiba, épouse de Abdul Bari Sahib, talukdar du Bengale. Elle est décédée le 20 mars dernier à l'âge de 83 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était malade depuis quelque temps. Elle est née de la région du Bihar. Son père était Sayyid Musa Raza Bagapur. Il a accepté l'Ahmadiyya à l'âge de 15 ans à l'époque du deuxième calife. La défunte s'est mariée par la suite à Abdul Bari Saheb de l'est du Pakistan. Ce fut après la partition de l'Inde, donc ils se sont établis à l'est du Pakistan. Et Abdul Bari Saheb avait, lui, accepté l'Ahmadiyya à l'époque du deuxième calife en 1946. Et après la formation du Bangladesh, ils se sont établis à Rabwa. Et pendant 20 ans, l'époux de la défunte a travaillé dans le dispensaire homéopathique de l'hôpital Fazri Umar. Abdul Khalik Bengali Saheb est un des fils de la défunte. Il est issu au Royaume-Uni. Et il est très connu au sein de la Jamaat d'ici. Il sert beaucoup la Jamaat. Abdul Bari Saheb a envoyé son épouse et ses enfants à Rabwa pour qu'ils apprennent la langue ourdou. Le Bangladesh s'appelait le Pakistan de l'Est. Eh bien, ils étaient dans une très bonne situation financière là-bas. Mais il a envoyé ses enfants pour l'éducation morale et spirituelle de ses enfants afin qu'ils puissent apprendre la langue ourdou et afin qu'ils soient proches du califat. Donc, il a consenti à de grands sacrifices, qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que ses enfants puissent atteindre les objectifs pour lesquels il a consenti à ces sacrifices et la raison pour laquelle il était venu à Rabwa. Je vais diriger ces trois prières funéraires, Inch'Allah, après les prières de Jumma.